En tout cas, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Et ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous, c'est s'intitule « La puissance de la parole ». Donc la puissance de la parole. Et en priant pour vous, vraiment, je cherchais la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que je peux partager. Et le Seigneur m'a donné une image, donc je reçois vraiment une belle image de la parole de Dieu. Donc je vois une Bible qui s'ouvre, et je vois vraiment une Bible avec des pages qui brillent, enfin vraiment, c'était vraiment magnifique. Et le Saint-Esprit met sur mon cœur qu'il désire réellement que ses enfants passent plus de temps dans la parole. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu veut passer du temps avec toi? Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur veut passer du temps avec toi. Et c'est important de comprendre à quel point c'est vital pour nous, à quel point c'est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que souvent, lorsque dans ma vie chrétienne, je côtoie des chrétiens, on échange, on discute, et que je leur demande un peu comment se passe votre vie chrétienne, comment ça va, ta foi, ta vie avec Dieu. Et souvent, les gens me disent, oui, bah, je vais à l'église, je prie, tout ça. Et souvent, quand il s'agit de la prière, les gens prient. Par contre, quand je leur demande, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu prends du temps dans la parole de Dieu? Là, dans la plupart des cas, les gens disent, ah, ben, je ne lis pas trop, des fois, de temps en temps, un petit verset, un chapitre. Et c'est pas ce que Dieu désire. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'information. On reçoit beaucoup d'informations. Et sur Facebook, sur Instagram, des fois, on a un verset qui apparaît. Ah, le verset du jour. Et là, on voit ça, on dit, ah, super, j'ai lu un verset, c'est bon. On pourrait croire que c'est suffisant. Mais lorsque tu reçois des bribes de versets, tu reçois un verset sans le contexte. D'accord ? Donc, tu n'as pas la substance, tu n'as pas la consistance qui va avec. Et donc, c'est bien de recevoir le verset du jour, si tu as l'application, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on serait surpris de savoir à quel point, lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu, ça résoudrait beaucoup de soucis dans nos vies. Beaucoup de situations seraient résolues. La paix de Dieu serait plus dans nos vies. Et surtout, on arrêterait d'avoir une vie instable, une vie en dents de scie. Le premier point qu'on va voir ensemble s'intitule « Laisse la parole de Dieu s'enraciner en toi ». Amen. Qui c'est qui désire ça? Qui aimerait dire « Seigneur, moi je veux que la parole de Dieu s'enracine en moi ». Alors c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir comment justement faire en tant qu'enfant de Dieu pour laisser la parole de Dieu s'enraciner en nous. Mais avant de voir cette partie-là, on va commencer par poser les fondements. Pourquoi ? Parce qu'il est notre roc. La parole de Dieu nous dit qu'il est notre roc. Dans Matthieu 7, verset 24, on va prendre ensemble la parabole qui est connue. Dans Matthieu 7, qui dit, c'est la parabole des deux maisons. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qu'il applique, donc la parole de Dieu, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Ici, dans cette parabole, on voit deux chrétiens. Un chrétien qui a pris le temps de poser des fondements grâce à la parole de Dieu et qui a posé des fondements qui est devenu un roc. Ces fondements sont devenus le roc, le rocher de sa vie. Grâce à ça, lorsqu'il fait face aux épreuves de la vie, il a une stabilité. Il arrive à faire face aux épreuves, aux circonstances de manière constante, de manière stable. Et des fois, on se dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie est en dents de scie. Pourquoi chaque fois, quand je fais face à des circonstances, à des épreuves, je tombe, je chute, après je me relève. En réalité, lorsque notre vie est comme ça, lorsque notre vie est instable, c'est parce que les fondations ne sont pas solides. Pourquoi ? Parce que lorsque les fondations sont instables, forcément, on va s'enfoncer et on va défaillir. Et c'est parce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être stables dans notre vie chrétienne. Arrêtez de tout le temps, il tombe, il lève. D'accord ? On a un peu dit tomber, lever, courir. Mais non, c'est pas ça. Non, là, on reste stable. Et comment justement avoir cette vie de stabilité ? En laissant la parole de Dieu s'enraciner en nous. Et Jésus, lorsqu'il était sur terre, a justement raconté une parabole puissante qui explique ce principe-là. Et on va voir ça en profondeur. Dans Matthieu 13, on va commencer à partir du verset 4. Il est écrit « Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris vraiment racine, ils séchèrent. » Donc là, on voit l'importance de s'enraciner. Si on ne prend pas racine, on s'assèche. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a une oreille, qu'il entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ? Il leur répondit : Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Amen. Dis à ton voisin, tu as un grand privilège. Est-ce que tu sais que tu as le privilège d'avoir accès au secret du royaume des cieux au travers de la parole de Dieu? Amen. Ça, c'est un réel privilège. Mais c'est un privilège qu'on ne réalise pas souvent. D'accord? Combien d'entre nous, souvent, la Bible dort tellement, la poussière finit dessus? En général, quand tu as un privilège, tu essayes de profiter de ça. D'accord ? Donc on doit réaliser, comme à l'époque, les apôtres avaient le privilège d'être avec Jésus, nous, on a le privilège de passer du temps avec la parole de Dieu. Donc on va aller plus loin, au verset 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. » Donc on voit que le diable met en place des stratégies et il fait en sorte de venir arracher ce qui est semé. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte Jésus aussitôt, mais il ne laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Il est inconstant dans sa méditation de la parole de Dieu. Il est inconstant dans sa vie de piété. Quand surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend, alors il porte du fruit, chez l'un un grand nombre, enfin, chez l'un un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Donc là on voit ici qu'en plus, lorsque Dieu te fait porter du fruit, Dieu multiplie le fruit qui est porté. Pourquoi ? Parce que tu passes de 1 à 100, ou 60, ou 30. Amen. Donc ça c'est glorieux. Ce qui est important ici, je sais que c'est une parabole que beaucoup ont déjà entendue, mais là, on va l'approcher différemment. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une approche sur l'enracinement. L'enracinement de la parole de Dieu. Parce que cette parabole a pour but aussi de nous faire réaliser qu'il est important pour nous de laisser la parole de Dieu prendre racine en nous. Et souvent, dans la parole de Dieu, Dieu aime bien prendre des principes naturels pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la réalité spirituelle. Et là, Dieu prend les plantes. Il prend justement le principe de la semence. Quelqu'un vient, donc par exemple, quand tu écoutes la parole de Dieu, que ce soit à l'église, sur Internet, ou que quelqu'un évangélise dans les rues, il est un semeur. Il vient, il va semer une graine. Ensuite, quand on regarde dans le principe naturel, cette graine-là tombe dans la terre. Qu'est-ce qui se passe ? La graine doit d'abord mourir. Elle meurt en terre. Ensuite, lorsqu'elle est arrosée, quand la pluie tombe, elle peut s'enraciner et commencer à se développer jusqu'à porter du fruit. Sauf que nous, souvent, on zappe une étape du processus. On reçoit la parole, la graine qui est semée, et on arrose, mais la graine ne meurt pas. On ne laisse pas la graine mourir. Et ce processus-là, c'est un processus qui est important pour pouvoir laisser justement les racines pousser et s'enraciner en nous. Et donc, pour comprendre ça, il faut comprendre, ok, ben, en réalité, c'est quoi ce principe de mort ? Comment la graine meurt ? Pour une plante, ok, la graine sèche, elle meurt, mais moi, en tant qu'être humain, comment je fais pour mourir ? Parce que c'est ça qui nous importe, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et vous avez sûrement tous déjà entendu, ben, lorsqu'on devient chrétien, il faut qu'on pense à croire, il faut qu'on meure à nous-mêmes, il faut qu'on vive sa vie, il y en a qui vont dire qu'il faut payer le prix, tout ça. Mais ça reste malgré tout assez abstrait. D'accord ? Qui c'est ici qui a envie de savoir réellement c'est quoi mourir à soi-même ? Comment mourir à soi-même ? Et comment laisser s'enraciner la parole de Dieu ? Moi-même, pendant longtemps, j'ai vraiment cherché comment justement vivre ces choses-là, dans ma quête aussi de foi avec Dieu. En réalité, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Dieu veut que ta chair meure et que ton esprit prenne le dessus sur ta chair. Pourquoi ? Parce que la parole dit que la chair est faible, mais que l'esprit est disposé. Donc, lorsque tu te convertis, lorsque la graine est semée, ton esprit est content, lui. Il dit, ah purée, oui, je crois en Dieu, j'ai envie de suivre Dieu, j'ai envie de faire les choses comme Dieu veut. Mais ta chair ne veut pas. Ta chair veut rester dans les choses du monde. Et mourir, c'est faire mourir sa chair. C'est faire mourir sa chair, c'est soumettre sa chair à son esprit. Mais pour faire mourir ta chair, tu dois comprendre qu'est-ce qui maintient ta chair en vie. Et ce qui maintient ta chair en vie, c'est la même chose que ce qui te maintient en vie. Qu'est-ce qui te maintient en vie ? C'est parce que tu vas te nourrir, tu vas boire et tu vas manger. Si tu bois et tu manges, tu restes en vie. Si tu arrêtes de boire et tu arrêtes de manger, à un moment donné, tu meurs. Et donc, c'est la même chose dans le naturel que dans le spirituel. Et ce qui est important, c'est de réaliser ces choses-là. Donc, Jean 12, verset 24 nous dit, « en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et donc, on voit que même dans la parole de Dieu, la parole met l'importance sur le fait qu'on puisse mourir. Mais on doit faire mourir notre chair. Et pour faire mourir notre chair, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on doit arrêter de la nourrir. Dans Matthieu 4, du verset 1 à 11, donc on va pas lire le passage, c'est dans ce passage-là, Dieu nous parle dans Matthieu 4, du verset 1 à 11, cela nous parle du passage où Dieu, après avoir été baptisé, par Jean-Baptiste, va dans le désert pendant 40 jours. Donc il va dans le désert, poussé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de ces 40 jours, la parole dit que Jésus eut faim. Et à ce moment-là, donc vous imaginez 40 jours sans manger, là il avait une faim terrible sur lui. Satan vient le tenter, premièrement avec de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il a voulu tenter Jésus au moment où il était le plus fragile. La parole dit que Jésus a été tenté dans toutes choses. Donc Satan a essayé de faire tomber Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté Jésus dans les trois axes principaux dans lesquels nous sommes souvent, nous tous, attaqués de notre chair. Les trois axes qui souvent nous font tomber dans le péché. Et on va voir ces trois axes ensemble. Premier axe, la convoitise de la chair. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple. Imaginons que tu aimes manger. Comme tout le monde, je pense que vous tous vous aimez manger. Un bon gaille saucisse, là il y a bientôt Pâques, un bon gigot d'agneau rôti, c'est très bon. Mais des fois on peut basculer dans le péché et tomber dans la gourmandise. D'accord? Et là on va commencer à être par exemple fan de chocolat, Nutella, Kinder, etc. On enchaîne et qu'est-ce qui se passe? On dit ok Seigneur, là tu vois que ma vie commence à être un peu déséquilibré et je commence à tomber un peu dans un penchant qui n'est pas bon. Je dois me redresser. Donc tu veux le faire. Sauf que qu'est-ce que tu fais? À chaque fois que tu vas au magasin, tu passes dans le rayon chocolat. Et là, tu regardes toutes les tablettes. Je dis, ça elle est bon avec mon petit noisette dedans. Là, tu rentres dans un magasin de chocolaterie. Tu sens la bonne odeur de chocolat. Et là qu'est-ce qu'il fait? Tu recommences à acheter un paquet, deux paquets, trois paquets, quatre paquets. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu as nourri ta chair. Tu l'as nourri visuellement, tu l'as nourri avec ton odorat, tu l'as nourri par rapport aux choses que tu as faites. Et forcément, plus tu vas nourrir ta chair, et moins tu seras capable de résister. Si tu t'exposes à des choses, c'est compliqué. Imaginons que tu as un problème avec la boisson. Et là, tu es devenu chrétien, tu dis « Ok, je vais... ça y est, j'arrête de faire n'importe quoi, je vais m'habiller en règle, je vais plus me saouler, je vais vraiment avoir une vie droite devant Dieu. » Et là, tous tes camarades t'invitent dans des bars, des pubs, et toi, tu y vas tout le temps. Dis, non, les gars, maintenant, je suis chrétien, je bois de la limonade. Vous voulez quoi, monsieur? Un petit quoi de citron, s'il vous plaît. Et là, premier jour, tu résistes, tu bois une limonade. Deuxième jour, tu bois de l'eau pétillante. Troisième jour, la bouche commence à gratter. Et à un moment donné, tu retombes dans le péché. Pourquoi? Parce que tu t'es exposé. Tu as nourri cette partie de la chair que tu avais réussi à tuer à un moment donné. Et quand tu comprends ce principe-là, tu te dis, « Ok Seigneur, aide-moi à mourir. » Lorsque Jésus était dans le désert, Satan l'a tenté. Il lui a dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. À ce moment-là, Satan, il a voulu tenter Jésus au niveau de l'orgueil, dire, oui, ben, si vraiment tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu. Montre-moi que tu peux tout faire, que tu peux vraiment envoyer tes anges. Mais Jésus n'est pas tombé de son piège. Et ensuite, à la fin, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra, donc là on parle de la convoitise des yeux, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on voit que Jésus a été tenté dans sa chair au niveau de l'orgueil et au niveau de la convoitise. Et Jésus a résisté à ces axes-là. Et ça c'est pour nous montrer aussi comment l'ennemi fonctionne. Il va toujours faire en sorte de t'attaquer dans ces axes-là. C'est pareil, si, imaginons que tu as eu des faiblesses au niveau des yeux. Je prends souvent les hommes avant d'être chrétien, si tu avais un peu les regards baladeurs, etc. Imaginons quelqu'un qui avait une vie où il partait beaucoup en boîte de nuit. avant d'être chrétien. Et qu'il devient chrétien, et qu'il dit, bon, ben, moi maintenant, je suis chrétien, je ne fais plus n'importe quoi. Par contre, je vais toujours en boîte, mais je reste avec mes camarades assis et je ne fais rien. Je discute. Non, mais on discute. Ça, c'est bien. On fait qu'on discute, on discute. Je ne fais rien de mal. Donc, effectivement, dans les faits, il ne fait rien de mal. Mais le fait d'être sur place, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir les gens danser devant lui. Il va voir plein de choses se passer. Et ça va venir nourrir sa chair. Ça va venir nourrir et ramener en lui des choses qui pourtant étaient mortes. Et donc, ce que tu vas exposer à tes yeux, à tes oreilles, va venir nourrir ces parties de ta chair. Il faut savoir que dans l'esprit, il y a un combat. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et ce combat-là, c'est comme en naturel. Si tu prends deux combattants, deux boxeurs, un boxeur, tu le nourris de manière équilibrée, légumes, fruits, féculents, un peu de viande, pendant 2 semaines, 3 semaines. Il s'entraîne. L'autre boxeur, tu lui donnes que de l'eau pendant 1 semaine. Quand tu vas les mettre tous les deux sur un ring, qu'est-ce qui va se passer? Le boxeur qui a bu que de l'eau va tomber faible. Alors que le boxeur qui aura bien mangé, il va réussir à faire face à son adversaire. Et dans l'esprit, c'est pareil. Lorsque tu meurs, lorsque la graine est semée en terre, elle doit mourir. Comment la graine meurt? Lorsque tu affames les parties de ton corps, de ta chair, qui sont là pour te faire succomber. Et donc, ça va dépendre de ce que toi, tu vas exposer à ton corps, à ton âme. Si tu regardes plein de choses, des séries, des films, ça va venir nourrir ton âme. Mais par contre, si tu équilibres ta vie, si tu passes du temps dans la parole, lorsque la tentation vient, alors le combat entre l'esprit et la chair sera plus rapide. L'esprit sera suffisamment fort pour faire face à la chair. Et donc, c'est ça l'importance de faire mourir la chair, cette graine qui meurt. Ça représente vraiment ce combat intérieur. 1 Jean 2, au verset 15, nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient de Dieu. Donc la parole est claire, elle te montre c'est quoi les 3 axes dans lesquels souvent l'ennemi va te cibler et t'attaquer. Romains 8, au verset 12, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais là, ce n'est pas la bonne mort, c'est la mauvaise mort. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Amen. Donc, on doit faire mourir la chair. Plus ta chair meurt, plus tu nourris ton esprit et plus quand tu fais face aux épreuves, aux difficultés, tu pourras tenir ferme. Pourquoi? Parce que tu auras réussi à faire mourir ta chair. Et donc lorsque le péché va arriver, lorsque la tentation va arriver, lorsque l'épreuve va arriver, lorsque les circonstances difficiles vont arriver, alors tu pourras tenir ferme, tu pourras être affermi et faire face à la difficulté. Et alors tu pourras laisser plus facilement aussi la parole s'enraciner en toi. Parce qu'on a vu dans le processus de la plante, c'est lorsque la graine meurt, que lorsque tu l'arroses par la parole de Dieu, que les racines peuvent pousser. Donc ça nécessite vraiment une mort à soi-même. Amen. Et donc, une fois que tu es mort à toi-même, tu vas essayer de plus en plus de passer du temps avec Dieu et recevoir la parole de Dieu. Mais il est important de comprendre une chose, c'est que tu peux recevoir la parole de Dieu de 2 façons. Soit sous une forme, sous la forme d'une information, ou soit sous la forme d'une révélation. Il y a Il y en a un qui aura un impact dans le monde spirituel et il y en a un qui aura aucun impact. Pourquoi ? Parce que je vais t'apprendre quelque chose de très puissant, une révélation puissante ce matin. L'information informe. Et donc l'information, ça t'apporte juste une information, ça t'informe. C'est pas ça qui va venir transformer ta vie. Vous savez, il y a des chercheurs, il y a des personnes qui ont des doctorats, qui étudient la Bible, mais que de manière informative. Ils connaissent mieux la Bible que nous. Mais ils n'ont que l'information. Ils sont informés. Alors que Dieu, il veut te transformer. Et ça se fait uniquement grâce à la révélation. La révélation de la parole de Dieu. Et tu peux par exemple connaître que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans pour tes péchés. Vous savez, quasiment tout le monde aujourd'hui dans la rue a eu accès à cette information. Moi-même, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai eu cette grâce-là, et je partais à l'église tous les dimanches. J'écoutais la parole de Dieu et je savais que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Mais pour moi, c'était une information. Je savais que c'était une information, je ne savais pas si c'était vrai, si c'était faux. Je me suis dit, sûrement c'est vrai, parce que mes parents, ils croient en Dieu, et je ne pense pas qu'ils croient en n'importe quoi. Donc par déduction, je me suis dit, sûrement c'est vrai, mais je n'avais pas la conviction. Et pour moi, ça restait qu'une information. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 12 ans, donc de 5 ans à 12 ans, j'ai reçu beaucoup d'informations. À l'âge de 12 ans, un jour, je me suis dit, j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que Dieu existe ? Est-ce que ce qui est écrit dans la parole, est-ce que ce que j'écoute tous les dimanches à l'église, est-ce que c'est vrai? Et là, j'avais cette quête, j'avais cette soif, même si j'étais jeune, de savoir si Dieu existait ou pas. Et à ce moment-là, je me rappelle, c'était un samedi matin. J'étais chez moi, je marchais, et ça me trottait depuis des semaines et des semaines dans mon esprit. Pourquoi? Parce que j'avais cette soif-là de connaître Dieu. Mais en même temps, j'étais tiraillé parce que le dimanche matin, soit je partais à l'église, soit je restais regarder des animés. Et donc, quand tu es un enfant, c'est un vrai dilemme entre regarder Dragon Ball Z et écouter le message. Et je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu existes, franchement, je préfère 100 fois aller à l'église. Je dis, par contre, si tu n'existes pas, c'est quand même dommage que je perde ma matinée le dimanche matin. Ce qui n'est pas faux. Et j'avais cette quête-là de chercher Dieu. Et je me rappelle, un matin, tout d'un coup, j'ai un verset qui vient dans mon esprit. Si toi, tu cherches Dieu, va dans ta chambre, ferme ta porte, et Dieu qui te voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6:6. Et à ce moment-là, toute l'information que j'avais reçue vient dans mon esprit. Je me rappelle que le pasteur a dit, la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu c'est Jésus. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Et je me suis dit, ok, si Dieu dit que la parole est la vérité, si je vais dans ma chambre, je ferme la porte, je prie, et que Dieu fait rien, c'est que c'est faux. C'est vrai ou pas? Si la parole de Dieu est vraie, si j'applique la parole, Dieu doit répondre à sa parole. Et je me suis dit, je vais faire. Je suis parti de ma chambre. J'ai fermé la porte derrière moi, je me suis mis à genoux et j'ai prié de tout mon cœur. Mais là, quand j'ai prié, là, je n'étais pas en mode de petite prière. C'était, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi ou sinon j'arrête. Je ne vais plus à l'église. Mais c'était sincère parce que je cherchais Dieu. Je voulais savoir s'il existait. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai été visité par Dieu. Le Saint-Esprit est tombé sur moi à l'âge de 12 ans. J'ai eu une vision de la croix et Jésus m'a touché. Et là, j'ai eu la révélation du sacrifice de Jésus. J'ai vécu une conviction de péché. Il faut savoir qu'à cet âge-là, j'avais quasiment fait aucun péché grave. Tu voles un truc, tu mens, tu mensonges, t'as fait ci, non, t'as pas fait, voilà. C'est des petites choses d'enfant. Mais j'ai tellement vécu cette conviction de péché, j'ai réalisé que j'étais un pécheur. À ce moment-là, j'étais tellement touché par Dieu que si on m'aurait dit « tu mérites la peine de mort », j'aurais dit « j'accepte tout de suite ». À quel point j'ai réalisé c'était quoi le péché et c'est quoi et qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a pris le péché sur lui. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était que pleurer. Je faisais que pleurer, pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la révélation du sacrifice de Jésus. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à l'information. Si tu as l'information, ça ne transformera pas ta vie. Moi, pendant des années, j'avais l'information. Mais c'est la révélation qui m'a permis de recevoir la foi en Jésus et de devenir un enfant de Dieu. Amen. Et donc la révélation, c'est quand le Saint-Esprit vient faire prendre vie la parole de Dieu en toi. Merveilleux, hein? Et ça, c'est que l'Esprit de Dieu qui est capable de faire ça. Et c'est ce qu'il désire. Il désire réellement t'apporter des révélations. Pourquoi? Parce que la parole dit que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Matthieu 4, verset 4 nous dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu prends du temps de la parole de Dieu, cette parole va venir te nourrir, va venir te vivifier, ton âme, ton esprit, pour que justement tu sois affermi en lui. Et c'est pour ça que Dieu veut que sa parole s'enracine en toi. Et comment elle va s'enraciner? D'abord, la graine est semée lorsque tu reçois la parole. Ensuite, la graine meurt, donc tu fais mourir ta chair. Et ensuite, c'est à toi de l'arroser avec la parole de Dieu. Et lorsque tu l'arroses, alors les racines vont grandir et aller profondément dans le sol et te permettre d'avoir justement une stabilité dans ta foi chrétienne. Deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est les bénéfices de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a des bénéfices, des promesses extraordinaires. Et c'est bon de se rappeler un peu de ces choses-là. Premièrement, elle te purifie et t'aide à grandir dans la sanctification. Psaume 119, verset 11 nous dit, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Lorsque tu passes du temps dans la parole, elle va toujours te mettre un peu sur le qui-vive, te permettre de rester éveillé, de faire attention. Pourquoi ? Parce que la parole te rappelle toujours ses principes. Elle te fait grandir dans le discernement, dans la sagesse. 2 Timothée 3, au verset 16, nous dit « Car l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » La parole de Dieu, elle te permet aussi de réussir dans les choses que tu entreprends. Donc si tu veux réussir, des fois, il y a des gens qui disent « Je ne comprends pas, ben, je vais à l'église, je prie, tout ça, mais je ne réussis pas. » Peut-être que tu as besoin de t'affirmer plus dans la parole. Josué 1, au verset 8 nous dit « Aie soin de répéter sans cesse la parole de ce livre de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » La parole de Dieu aussi te permet de marcher dans la vérité et elle te garde des ruses du diable et des tromperies de l'ennemi. Jacques 1 au verset 22 vous dit « Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Pourquoi ? Parce que si tu ne lis pas la parole, à un moment donné, dans ton quotidien, tu vas commencer à faire des choses, faire des actions, et tu vas commencer à interpréter les circonstances et les choses à ta manière, et pas à celle de Dieu. Et tu vas commencer à faire des compromis. Et en faisant ces compromis, tu te trompes toi-même, parce que tu te pièges toi-même. Alors que si tu as la parole de Dieu qui est là, comme un tuteur, Lorsque tu fais face à des circonstances, tu dis, ok Seigneur, ta parole dit ça. Je ne vais pas aller à l'encontre de ta parole. 1 Timothée 4, verset 22 nous dit, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de tout et du n'importe quoi sur Internet. Les gens t'informent. Tout le monde est pasteur sur Internet. Tout le monde fait des vidéos. Tout le monde fait des chaînes. Et on se retrouve à écouter beaucoup d'enseignements. Mais qu'est-ce qui va te permettre, justement, de discerner les choses? De discerner les choses, justement, qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais qui viennent des esprits mauvais, qui viennent influencer les gens qu'on pourrait être amené à écouter. C'est la parole de Dieu. Plus tu es affermi dans la parole, plus tu sais ce que la parole de Dieu dit. Et lorsque quelqu'un va commencer à te partager des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tout de suite, tu vas discerner ce qui est mauvais. Pourquoi ? Parce que souvent, l'ennemi va venir déformer la parole pour t'amener un enseignement qui est mauvais, mais qui va venir flatter une partie de ta chair. Je connais des chrétiens nés de nouveau depuis des années qui croient encore qu'ils peuvent se marier avec plusieurs femmes. Et ils arrivent à me l'expliquer bibliquement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été trompés par l'ennemi, ils sont tombés dans un faux raisonnement, et c'est des gens, si tu les écoutes et que tu n'as aucun discernement, tu peux croire que c'est vrai. Et ça, c'est un enseignement parmi tant d'autres. Et lorsque tu es affermi dans la parole de Dieu, ça te permet d'éviter justement de tomber dans les ruses, dans les pièges de l'ennemi. Amen. La parole de Dieu te permet d'avoir une vie où tu gardes ta paix. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important dans les temps dans lesquels nous sommes, avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui, franchement, quand je vois des fois ce qui se passe, je me dis, purée Seigneur, si tu n'aurais pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que grâce à toi, je garde ma paix. Je sais que je ne dépends pas des choses qui se passent ici-bas. Et c'est important, Psaume 119 nous dit au verset 165, « Il y a une telle paix et un tel bien-être qui viennent aux amoureux de ta parole. Et ils ne seront jamais offensé. Si tu veux une clé pour ne jamais être offensé, sois un amoureux de la parole. À chaque fois que tu es offensé, dis-toi, là, je pense que je ne suis pas assez amoureux de la parole. S'il y a au moins quelque chose, il faut que je travaille. Et enfin, dernier point, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas tous les voir. La parole de Dieu te rend aussi vulnérable. Elle t'amène dans l'humilité. Elle te dit, ok Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que peut-être je dois réajuster des choses en moi? C'est ce que la parole va venir faire, va venir mettre en lumière les choses qui doivent être renouvelées. Hébreux 4, verset 12 nous dit, « Car nous avons la parole de Dieu vivante, pleine d'énergie, comme une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de ton être, de notre être, là où âme et esprit, os et moelle se rencontrent. Elle interprète et révèle les véritables pensées et les motifs secrets de nos cœurs. » Des fois, nous-mêmes, on ne sait pas. On pense bien faire, on pense avoir pardonné, on pense que on est passé sur une situation, mais en réalité, c'est encore, il reste des choses au fond de nous. Et la parole de Dieu est là aussi pour venir justement révéler ces choses-là, pour nous permettre de nous purifier. Et parfois, dans notre vie, ce n'est pas qu'on fait des mauvaises choses. On fait des bonnes choses, on essaie de faire des bonnes choses. Mais on fait les choses pas forcément avec la bonne attitude de cœur. Parce que justement, on n'a pas vu qu'il y avait des choses au fond de nous qui devaient encore être nettoyées, être purifiées. Et c'est pour ça que la parole est là aussi, pour venir justement nous purifier et nous révéler les choses que nous-mêmes, on n'est pas forcément conscients. Amen. Troisième point qu'on va voir ensemble, c'est connaître la parole de Dieu, c'est connaître Jésus. Est-ce que tu sais que lorsque tu passes du temps dans la parole, tu passes du temps avec Jésus? Vous savez, souvent, quand on est chrétien, on a envie d'entendre Dieu, on a envie de voir Dieu. Moi, j'ai toujours eu ce rêve-là, qu'un jour Jésus vienne me voir dans ma chambre, s'assoit à côté de moi et on discute. Ça serait glorieux, hein? Qui c'est qui rêverait pas de ça? Ou des fois, il y en a qui veulent avoir des visions, tomber en extase, Jésus apparaît devant toi avec les yeux en feu, comme dans la Bible. Ça serait extraordinaire. Et donc, on aimerait voir Dieu, on aimerait avoir ce temps-là avec Dieu. On aimerait entendre Dieu nous parler audiblement, comme les prophètes, le prophète Samuel, Dieu qui l'appelle Samuel, Samuel, il l'entend audiblement. Et c'est effectivement, gloire à Dieu si ça nous arrive. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu lis ta Bible, Jésus te parle? Lorsque tu lis ta Bible, tu passes un temps avec Jésus. Pourquoi? Parce que la parole dit que Jésus est la parole. Jean 1, 1 nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Jean 1, 14 nous dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Est-ce que vous voulez une astuce pour entendre Dieu 100% d'acuité? Tu lis la Bible à haute voix, tu as entendu sa parole? Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est la vérité. Lorsque tu réalises que Jésus est la parole, tu abordes différemment tes temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est quoi? Je ne suis pas en train de lire un livre là. Je suis en train de passer du temps avec Jésus. Jésus est la parole. Tu prends ta Bible, tu commences à lire, tu dis, Seigneur, Jésus, c'est toi la parole. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Quelle est la vérité que tu as pour moi aujourd'hui? Et là, tu n'es pas en train de recevoir une information. Tu es en train de passer un temps avec Jésus. Et ça, ça fait toute la différence. Amen. Et par exemple, pendant un temps, je me posais la question, comment est-ce que je peux faire en tant que parent pour amener mes enfants à avoir des rencontres avec Dieu? Parce qu'on aimerait que nos enfants vraiment soient touchés par Dieu. Et à un moment donné, je commençais à partir vraiment dans des films et me disais, purée, ça serait top si vraiment mes enfants commençaient à vivre des expériences de fou avec Dieu, tout ça. Et c'est une bonne intention. En tout cas, je pense que tout parent normal aimerait ça. Et en priant, c'est là que le Saint-Esprit vraiment me reprend sur des choses simples. Il me dit, lorsque tu passes du temps à lire la parole avec tes enfants, ils passent déjà du temps avec moi. Et là, je me suis dit, purée Seigneur, c'est vrai. Je lui ai dit, j'ai pas réalisé qu'en fin de compte, juste ça, ils sont déjà en train de passer du temps avec toi. Et là, je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi vraiment à voir les choses comme toi, tu vois. Et là, j'ai commencé à le faire de manière plus régulière et surtout avec une autre mentalité, une autre perception. Où tu te dis, ok, tu n'es pas en train de juste lire une histoire là, d'accord? Histoire, Noé, les animaux, tout ça. Non, non. Il passe du temps avec Jésus au travers de la parole. Amen. Et donc, on doit réaliser ça. Et c'est pareil pour nous. On doit réaliser que la parole de Dieu, ce n'est pas juste une information. La parole de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus. Amen. Amen. 2 Timothée 3,16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et donc, c'est vraiment ce que Dieu veut. En réalité, c'est vrai que la chair est faible et souvent on a du mal, on n'a pas envie. On n'a pas envie des fois de lire la Bible. Parce que c'est sûr que, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, d'accord, levez pas la main, mais je pense que ça nous est quasiment déjà arrivé. Des fois, le soir, tu arrives, tu dis, bon, je vais faire mon bon chrétien, je vais lire la Bible. Tu prends ta Bible, au bout de 2 VAC, les yeux ferment. 3 VAC, les yeux ferment. Et là, on est là, et on n'arrive pas à lire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, comme on l'a vu plus haut, il y a un combat spirituel. L'ennemi fait tout pour que tu ne puisses pas passer du temps dans la parole. Il y en a beaucoup, quand vous allez prier, ça va. Tu fermes ta porte, tu mets la musique, tu pries en langue, tu envoies, tu bombardes. Tranquille. Dès que tu prends ta Bible, le téléphone il sonne. Ah, il y a un travail pour faire. Il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord ? Il y a toujours des choses qui vont se mettre au travers de ton chemin lorsque tu vas vouloir lire la parole de Dieu. L'ennemi utilise même l'esprit d'assoupissement pour te faire dormir quand tu veux lire la Bible. C'est une réalité. Il va venir te faire dormir. Par contre, si tu mets une série Netflix, un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, le jeu le rouvert en ça. Et tu commences à lire la Bible, au bout de 30 secondes, il dort. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que tu t'enracines dans sa parole. Et on doit réaliser que ça va nous demander d'être intentionnel. Tu dois te fixer des objectifs. Ne mets pas la barre trop haute. Commence à lire un chapitre par jour. Mais sois constant. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse, en tant qu'enfant de Dieu, nous consacrer, avoir un autel, pas que de prière, un autel de consécration dans la parole de Dieu. Lorsque tu commences à avoir une constance dans la parole, tous les jours, du Seigneur, tu sais quoi ? Je vais réajuster mon agenda. Je vais essayer déjà d'être constant. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu plus haut, si tu ne te nourris pas, lorsque le combat arrive, c'est la partie la mieux nourrie qui va remporter le combat. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, dès que tu arrives dans l'épreuve, tu es cuit. Et ce n'est pas ce que Dieu désire. Donc, sois constant. Est-ce que tu rates des repas tous les jours ? Ah, ben aujourd'hui, je ne mange pas. Demain, je ne mange pas. Peut-être après-demain. Si tu fais ça tout le temps, à un moment donné, ton corps ne tient pas. C'est pareil dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on doit être constant dans la parole de Dieu. Même si c'est dur, même s'il faut prendre sur soi, même s'il faut, c'est un combat de soumettre la chair. Mais lorsque tu le fais, lorsque tu commences à mettre en place cet autel de consécration, alors, dans le monde spirituel, tu commences à bâtir cet autel. Tu commences à le bâtir. Et lorsque tu fais face à l'ennemi, lorsque l'épreuve arrive, lorsque la tentation arrive, lorsque les circonstances arrivent, alors cet autel fait face à l'ennemi et te permet de tenir justement dans l'épreuve et dans les difficultés. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour chacun. Ce n'est pas parce que là je suis pasteur, je prêche. Je veux dire, moi, je travaille à 35 heures, mon planning est chargé. Et je prends du temps à côté pour l'œuvre du ministère. Mais je n'ai pas plus de temps que vous pour prier. Je dois me faire violence. Si je ne fais pas, personne ne fait pour moi. Et donc, le combat, c'est le même pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. On doit le faire, on doit le mener, et c'est pour notre bien. Jacques 1, au verset 5, nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement sans reproche, et il lui sera donné. » Des fois, il nous manque de sagesse pour justement mieux gérer notre organisation, notre planning. Quand c'est comme ça, je dis, « Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je peux réajuster ? Comment est-ce que je peux avoir un meilleur planning ? Comment est-ce que je peux construire, bâtir cet hôtel pour toi ?» Et dernièrement, on doit apprendre aussi à demander à Dieu de nous aider à soumettre notre chair, nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu te soumets à sa parole, c'est là que tu vas laisser Dieu agir dans ta vie. Et comment on fait pour se soumettre à la parole de Dieu ? En pratiquant la parole de Dieu. Et c'est le dernier point qu'on va voir ensemble. Tu demeures dans sa parole lorsque tu la pratiques. Jacques 1, au verset 22, vous dit « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Ne sois pas un auditeur oublieux. Si, à chaque fois qu'il y a une situation, tu es offensé, tu ne pardonnes pas. Si à chaque fois que il y a une situation dans le couple ou avec les enfants, tu te mets en colère. Donc ça, c'est des indicateurs. C'est par exemple, tu vois qu'à chaque fois, dans ces circonstances, tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est qu'il y a un problème. Tu dois pratiquer la parole. Tu dois être prompt à pardonner. Tu dois être quelqu'un qui amène la paix, qui instaure la paix, qui amène la joie. Tu dois porter du fruit dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses que tu dois réaligner dans ta vie avec la parole de Dieu, en la pratiquant. Parce que si tu ne fais que recevoir l'information, comme on a vu avant, l'information ne va pas te transformer. Ça veut dire que tu dois aller chercher les révélations de la parole qui vont te permettre d'être transformé et de ne plus réagir de la même manière dans les circonstances. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, au bout de 10 ans de vie chrétienne, ils ont toujours le même combat. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a eu des mauvaises fondations. Ils n'ont pas laissé les racines de la parole rentrer, pénétrer dans leur vie. Et lorsqu'on le fait, lorsqu'on obéit, lorsqu'on pratique la parole, alors c'est là que justement on commence à porter du fruit. 1 Jean 3, verset 24 nous dit « Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Et donc là, pareil, garder ses commandements, ça parle d'obéissance. Et donc Dieu nous demande d'être des enfants obéissants, obéissants à sa parole. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est comme à l'école ou avec les enfants. Des fois, tu vas expliquer quelque chose à un enfant, il va entendre, mais il ne va pas réussir à vraiment comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il va comprendre ? C'est lorsqu'il va pratiquer. Plus tu pratiques, plus ça s'imprègne en toi. Si tu expliques la théorie, comment monter au vélo ? Tu expliques, voilà, l'équilibre, tu poses ton pied sur les pédales, tu tiens le guidon, tu pédales, tu gardes le centre de gravité, etc. Je dis, oui, ben, en théorie, je comprends comment faire du vélo. Et j'ai l'information, j'ai la connaissance. Mais est-ce qu'avec ça, je suis capable de monter, de faire du vélo ? Non. Je dois pratiquer. Je monte sur le vélo, je tombe une fois. Je tombe deux fois, parce que j'essaye au début, je fais mal. Mais à force de pratiquer la parole de Dieu, à force de s'efforcer à pratiquer, à un moment donné, on roule, on avance. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne tombes plus. Et tu avances. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse avancer, qu'on arrête de tomber. Et comment ? Au travers de la pratique. Et ce n'est pas une contrainte, c'est un principe. C'est un principe naturel pour recevoir quelque chose. Tu dois le mettre en pratique. Sinon, ça reste de la théorie. 1 Jean 15, verset 7 nous dit, « Si tu marches dans l'obéissance et que tu as un cœur transformé par ma parole, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Amen. Donc, plus tu pratiques la parole de Dieu, plus tu t'alignes à ce que Dieu veut et plus Dieu répond à tes prières. Amen. Pourquoi ? Parce que tu es tellement renouvelé que lorsque tu pries, tu es efficace. Lorsque tu pries conformément à sa parole. C'est pour ça que Dieu veut que tu pratiques aussi sa parole dans ta vie de prière. Pourquoi ? Parce que sa parole est efficace. Lorsque tu pries, ne sois pas axé que sur tes besoins. Prie en étant aligné à ce que Dieu veut. et réalise que la parole est une arme. La parole est une arme que tu peux utiliser quand tu connais la parole de Dieu. Tu peux prier, du Seigneur, montre-moi ta parole, quel verset est à propos pour ma circonstance. Peut-être que je suis dans le besoin. Mais dis, Seigneur, donne-moi des versets qui montrent que tu vas pourvoir à mes besoins. Peut-être que tu cherches une guérison. Demande au Saint-Esprit de te guider pour te donner des versets pour la guérison. Peut-être que tu as besoin de stabilité dans ton couple, dans tes relations. Demande à Dieu la sagesse dans sa parole pour t'aider là-dedans. Et donc, utilise aussi la parole de Dieu comme une arme puissante dans la prière pour t'aider dans les circonstances. Hébreux 4, au verset 12, nous dit « Car la parole de Dieu vivante est efficace, plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. » Appuie-toi aussi sur ces promesses. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Lorsque tu les déclares, ça active des choses dans le monde spirituel. Et là, tu es efficace. Pourquoi ? Parce que souvent, on ne sait pas comment prier. Et moi, parfois, quand je ne sais pas comment prier, je prends des psaumes, je lis. Je déclare les psaumes à haute voix. Pourquoi ? Parce que je sais que la parole de Dieu est efficace comme une épée à double tranchant. Amen. Alors, pour conclure, si le groupe de louange peut venir, s'il vous plaît. Frères et sœurs, vraiment, ce que le Saint-Esprit me mettait comme fardeau sur mon cœur pour vous, c'est que il sait que souvent, quand on est chrétien, c'est pas qu'on n'aime pas Dieu, c'est pas qu'on a des mauvais désirs, c'est que souvent on n'a pas cette prise de conscience, on ne réalise pas l'importance et la puissance de la parole de Dieu, à quel point c'est un roc, à quel point c'est important que nous laissions les racines de la parole s'ancrer en nous. Et est-ce que tu sais que Dieu désire plus que toi que tu passes du temps dans la parole? Parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et il est la parole. Et on doit apprendre à ne pas voir ça comme une contrainte, mais comme un privilège. Comme on l'a vu au début, c'est un privilège que nous avons d'avoir accès à la parole de Dieu, d'avoir accès aux secrets cachés. Comme la parole dit, il cache les choses et il les révèle à ses enfants, à ceux qui le cherchent. C'est ce que Dieu désire. Est-ce que tu sais que Dieu a des trésors en réserve pour toi? Mais pour les avoir, tu dois aller les chercher en passant du temps dans sa parole. Et c'est autant vrai que pour toi que pour moi.
Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.